aujourd'hui la masterclass de Laura Kassinski avec Arnaud Laporte.
Nous ouvrons à présent la masterclass de Laura Kassinski ici à la mairie de Vincennes dans le cadre du festival America. Pour rappel, cette collection d'émissions a pour vocation d'essayer de savoir comment se construit une œuvre, vraiment au sens de la fabrication de celle-ci, de l'idée de départ jusqu'au moment où l'artiste considère son œuvre comme achevée. Elle et il nous racontent le processus dans son élaboration. Il est vrai que d'une masterclass à une autre, un ensemble de questions sont communes, parce que même si nous interrogeons des artistes de tout champ disciplinaire, c'est toujours le même mystère que nous essayons d'approcher, celui de la création. Aujourd'hui, c'est donc Laura Kassinski qui a accepté de se prêter à cet exercice, qu'elle en soit évidemment grandement remerciée, tout comme Morgane Zezana, qui sera l'interprète de cette conversation. Quelques éléments biographiques avant de commencer pour dire que vous êtes née Laura Kassinski dans le Michigan, où vous avez fait vos études supérieures, où vous êtes devenue professeur de langue anglaise et d'écriture. Michigan, où vous vivez toujours. On va forcément parler du Michigan avec vous. Vous avez commencé par publier au début des années 90 des recueils de poésie, puis un premier roman en 1996, Suspicious River, publié en France en 99 aux éditions Christian Bourgois. Ce livre donnera d'ailleurs naissance à un film sorti en 2000. Deux autres de vos livres ont été adaptés pour le cinéma. Le cinquième roman, À moi pour toujours, Be Mine, a été publié en 2007, mais c'est devenu un best-seller national aux États-Unis. En France, je rappelle que vos romans sont traduits chez Christian Bourgois, éditeur. Votre poésie et vos nouvelles, traduites aux éditions Page à Page, la parution la plus récente en France, c'est un court roman, une novella, comme on dit aux États-Unis. Eden Springs, que vous avez publié en 2010 aux États-Unis, traduit par Céline Leroy aux éditions Page à Page. Vous êtes fille unique, fille d'une fille unique. Vous dites qu'on vous a très tôt considérée comme une adulte à qui on pouvait tout raconter. Et vous avez commencé à écrire très jeune, enfant, Laura Kassinski, dans une ville où il n'y avait même pas de librairie. Comment est-ce que vous expliquez que vous ayez commencé à écrire si jeune? Est-ce que vous croyez en la vocation?
I believe that my interest in writing started because I loved to read.
Je crois que mon intérêt pour l'écriture est né de ma passion pour la lecture. Parce que, contrairement à la plupart des lecteurs, moi, quand je lis, je n'admire pas forcément l'écrivain. Le premier sentiment qui me vient, enfin, en tout cas, qui me venait à l'époque, c'était la jalousie. Je me disais, ah, mais j'aurais aimé pouvoir écrire un tel ouvrage. Et j'aurais sans doute pu, je m'en sentais capable, alors que c'était peut-être pas le cas. En fait, pour moi, la lecture, ça n'a jamais été quelque chose qui devait se passer à l'extérieur de moi. Je sentais que je devais faire partie de la lecture et donc de l'écriture.
De qui étiez-vous jalouse?
Oh, well, at that time, it could have been anything. Nursery rhymes or Laura Ingalls Wilder's Little House on the Prairie. Really, anything.
Je pouvais être jalouse de beaucoup de choses. Ça pouvait être des comptines, comme La Petite Maison dans la Prairie, par exemple. Parce que je lisais toutes sortes d'histoires. J'étais très jalouse de Nancy Drew et consorts, par exemple. Et puis ensuite, je suis devenue... ma jalousie s'est tournée vers des auteurs un petit peu plus matures quand moi-même j'ai atteint l'âge de les lire. Et donc vous me demandiez de qui j'étais jalouse. Alors je pourrais citer par exemple Edith Wharton, parce que quand j'ai lu Ethan Thrones, je me suis dit, oh là là, vraiment j'aurais beaucoup voulu aimer écrire cet ouvrage, mais bon, ça avait déjà été fait à une époque à laquelle je n'existais pas.
Mrs. Dalloway a été aussi un livre important.
Very meaningful to me. The beautiful prose. It's a book that I keep on my desk, really, to open it.
Oui, ça a été un ouvrage vraiment très marquant pour moi parce que La beauté de la prose est d'une telle puissance dans ce livre que j'en ai fait d'ailleurs un livre de chevet que je feuillette à peu près tous les jours parce que ça m'aide à me rappeler le pouvoir justement de la prose, ce qui peut être accompli grâce à la prose et ce qu'on peut en faire. Parce qu'en fait, je me considère plutôt comme une poétesse. J'écris principalement de la poésie. Et j'ai pu avoir tendance à me dire que jamais la prose n'arrivait à atteindre la grandeur et la puissance de la poésie. Mais quand je repense à Mrs. Dalloway, n'importe quelle phrase que je lis qui est tirée de ce roman, eh bien, me rappelle que la prose peut aussi atteindre cette puissance.
Mais qu'est-ce qui a fait que, justement, vous, Laura Kaczynski, qui écriviez de la poésie depuis enfant, puis qui avez commencé à en publier, comment se fait-il que vous soyez passée au roman ? Qu'est-ce qui a déclenché cette écriture-là, romanesque, chez vous ?
I think I had always wanted to write fiction, and I had written a few short stories.
Je crois que j'ai toujours voulu écrire de la fiction. J'ai d'ailleurs assez tôt écrit des nouvelles qui n'ont pas rencontré un très très grand succès, je dois le dire. Je pense que j'ai toujours aimé écrire des romans, écrire de la fiction. Ça vient peut-être justement de cette jalousie envers les romanciers dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, pour moi, passer à la fiction, écrire des romans, c'était une sorte de défi que j'avais envie de me lancer, parce que je voue un très grand respect à cette forme d'écriture.
Dans ces masterclass de France Culture, Laura Kaczynski, on essaie de comprendre comment le geste créatif est déclenché. Alors dans votre cas, il y a l'écriture poétique, mais l'écriture de nouvelles et de romans qui sont assez différentes. Qu'est-ce qui déclenche l'écriture d'un poème ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'impose à vous ? Est-ce que c'est d'abord une phrase ? Est-ce que c'est une sensation ?
Really, I get my inspiration usually when I'm for writing a poem when I'm in the act.
En général, l'inspiration pour l'écriture poétique, elle me vient quand je suis en train d'écrire, quand je suis vraiment activement dans ce processus-là. J'ai toujours sous la main des carnets, des petits carnets pas très chers que j'achète au supermarché, dans lesquels je note une bribe de phrase ou une image qui me vient. Et puis au moment où je consigne cette idée, cette image, eh bien, c'est parfois là que vient quelque chose qui va pouvoir prendre un peu plus d'ampleur et qui, je l'espère, va pouvoir devenir un poème.
And sometimes I'll have an idea for the poem or the subject matter before I start that process, but rarely. It's usually when I'm thinking, I'm just writing down my thoughts here, that I will find myself.
Il peut m'arriver d'avoir une idée un petit peu plus concrète avant de me lancer dans ce processus-là, mais c'est assez rare. Souvent, voilà, je prends les pensées comme elles me viennent, et puis j'espère que à partir de ces bribes que j'écris, il va pouvoir se développer ce que je pourrais appeler l'inspiration.
I also keep these scraps in notebooks around. And return to them even if nothing has gone any farther from initial jotting. And I'll go back to them and sometimes I'll start over because for me, it's impossible to sit down.
Je garde toujours des petits bouts de papier volant dans ces carnets, justement, et j'y reviens assez régulièrement, même si rien n'en est sorti, même si c'est juste resté à l'état de petits gribouillis. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'y revenir, parce qu'il est tout à fait inconcevable pour moi de m'asseoir devant une page vierge ou devant un écran d'ordinateur comme ça. Je peux pas. J'ai vraiment besoin de quelque chose, d'une matière avant de commencer. Parce que justement, la pression et l'intensité qu'il peut y avoir dans l'idée, la perspective de se dire, bon, ça y est, là, je vais écrire un poème, c'est trop pour moi. Immédiatement, là, il me prend une envie soudaine, irrépressible, d'aller faire la lessive.
Concernant les romans, Laura Kaczynski, Qu'est-ce qui déclenche là l'écriture? Est-ce que c'est à chaque fois différent? Est-ce que vous avez un sujet? Est-ce que c'est une lecture dans un journal? Est-ce que c'est une histoire que vous avez entendue?
It's been different for every novel. My first novel, Suspicious River, I had an idea and I wrote a first draft or so, and it was
la genèse de mes livres a été différente pour chaque roman. Pour mon premier roman, Suspicious River, j'avais effectivement une idée dès le départ. Donc j'ai commencé à écrire un premier jet, et puis je me suis rendu compte qu'il était terrible, il était affreux. Je me suis rendu compte aussi que j'étais vraiment attachée à cette idée que j'avais eue au préalable, et qu'il fallait que je continue à persévérer sur cette idée, mais je m'étais trompée de personnage. J'avais commencé à écrire en centrant l'intrigue sur la mère, alors qu'en fait, c'était l'histoire de la fille que je voulais raconter. Et quand j'ai changé, justement, j'ai opéré un changement de cap, de point de vue, eh bien, j'ai réussi à écrire l'œuvre en un mois. Enfin, bien sûr, j'ai dû réviser, remanier pendant un an, hein, mais c'est allé très vite à partir de là. Donc, c'est différent pour chaque livre.
That one was launched by an idea, I think, of a place, and also a season. I really wanted to write about September and October and the fall in Michigan, and I wanted that to be, I just really wanted to get that atmosphere and all that sensory detail in.
Pour ce livre aussi, il y avait au départ quand même l'idée d'un endroit, d'une saison particulière. J'avais vraiment cette envie d'écrire à propos de l'automne dans le Michigan, à propos de cette atmosphère très spéciale, et j'avais envie de développer les détails sensoriels à propos de cette saison-là.
And my second novel, White Bird in a Blizzard, was it was inspired by true story, a crime that had been committed in a town close to where I was living, and I had just been reading newspaper articles about
it. Second roman, donc White Bird in the Blizzard, un oiseau blanc dans le blizzard. Eh bien, j'ai été inspirée par une histoire vraie, par un fait divers qui s'était produit dans une ville près de celle où j'habite. J'avais lu énormément d'articles de journaux à propos de cette affaire, et j'avais un petit peu développé une sorte d'obsession sur ce fait divers. Donc on peut dire que ce roman a été inspiré par une idée. Et pour une fois n'est pas coutume, là je savais comment il allait se terminer, ce roman.
Il y a toujours des cas particuliers pour vos livres, Laura Kaczynski. Eden Springs, le dernier publié en France, même si pour vous l'écriture remonte à 2009-2010. Là, c'est un roman d'époque. Il nous transporte un siècle avant maintenant, puisque c'est le début du XXe siècle. Une histoire vraie, des éléments. Et d'ailleurs, vous avez tenu à ce qu'il y ait des photographies à la fin de ce volume d'Eden Springs, mais une part fictionnelle. Dans ce cas-là, comment est-ce que vous vous imprégnez de ce sujet? Comment est-ce que vous imaginez vos personnages? Est-ce qu'ils s'imposent à vous?
That novel, we call it a novella, a little novel. it was inspired by the cult that I learned about that
oui, donc ce livre est plutôt une novella, un petit roman. Eh bien, l'inspiration première pour cet ouvrage, c'est évidemment la secte qui s'était installée dans cette petite ville à côté d'où j'habite. Et dans cette ville, donc Benton Harbor, où ma famille, la plupart de ma famille avait vécu. Mais étonnamment, malgré cette proximité, je n'avais jamais entendu parler de cette secte et de son histoire avant, je crois, d'avoir la trentaine. Et il n'y avait pas grand chose d'écrit à propos de cette secte. Je crois qu'il y avait quelques ouvrages universitaires des essais, mais des choses très 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 mineures.
Crept around the old grounds of the place it had been,
Par contre, il y avait des ressources, une manne de ressources avec les transcriptions du procès, des procès. Et donc, je me suis amusée à réassembler les pièces de ce puzzle que procuraient ces transcriptions. Et je crois que tout le plaisir, enfin, ce qui m'a le plus plu dans l'élaboration de ce livre, c'est vraiment la phase de recherche. Parce que je suis devenue assez, comment dire, cette secte a commencé à vraiment m'obséder. Donc je suis allée jusqu'à visiter les lieux où la secte avait vécu, à Eden Springs. J'ai collectionné tout un tas d'articles, de cartes postales, dont la plupart d'ailleurs n'ont pas été sélectionnées dans l'ouvrage. Et je crois que la seule façon pour moi de raconter cette histoire, c'était d'en faire un ouvrage assez hétéroclite. Voilà, de rassembler différents points de vue, différents articles, etc. Et puis, par contre, j'ai aussi voulu explorer d'un point de vue plus créatif, en me basant sur mon imagination, ce qu'avait pu être la vérité de la vie dans cette secte, au sein de cette secte. Et donc, à partir de là, enfin, pour ce faire, j'ai dû inventer des personnages.
Ça fait plusieurs fois que le mot d'obsession revient dans vos propos, Laura Kaczynski. Vous êtes obsédée par vos sujets. Dans votre façon de travailler, dans votre méthode de travail, est-ce qu'il y a des horaires? Est-ce qu'il y a un lieu pour écrire? Est-ce qu'il faut mettre de la musique ou pas de musique? Est-ce que vous arrivez à débrancher le soir?
I am obsessive. I have a study with a desk upstairs in which I work. It's a big mess, but lots of stuff all over the place.
Oui, je suis quelqu'un d'obsessionnel, on peut le dire. Je travaille effectivement dans un bureau à l'étage chez moi, et je dois dire que c'est quand même pas mal le bazar, c'est jonché de mille et une choses.
And for me, the really fun thing about writing novels and why I like to do it in addition to writing poetry is because of the nature of writing novels.
Ce que je trouve vraiment amusant dans l'écriture de la fiction, des romans, en plus de ce qui me plaît dans la poésie, eh bien, c'est dans la nature même de l'écriture de fiction. C'est justement l'obsession. C'est-à-dire, si vous écrivez sur un sujet, mais que vous cessez d'être obsédé et hanté par ce thème, eh bien, vous cessez d'écrire. Et quand je suis en train d'écrire un roman sur tel ou tel sujet, eh bien, ça me donne une matière à penser, matière à me poser des questions, à être toujours sur le qui-vive, à l'affût de choses que je pourrais ajouter dans l'ouvrage, quelque chose que je pourrais amener du monde extérieur, du monde qui m'entoure, dans le roman.
And the only thing I can really say is my process, because I don't write at a certain time every day.
La seule chose que je pourrais dire, ajouter, c'est parler de mon processus d'écriture. Je n'écris pas forcément à des heures fixes chaque jour. J'essaye en tout cas d'écrire tous les jours, mais évidemment je suis occupée. Donc parfois je n'arrive à me dégager que 5 minutes. Mais si l'inspiration vient, eh bien, ces 5 minutes peuvent se transformer en 5 heures. Mais en tout cas, j'ai vraiment ce besoin d'écrire quelque chose, même très peu, mais chaque jour.
When I'm in the middle of writing a novel and I'm working on it a little bit every day, if I get to a certain point and I don't feel that obsession and I'm not spending my time in the world looking around for, you know, significant signs and symbols then I let it go because
Et quand je suis vraiment dans le processus de l'écriture d'un roman, eh bien, si je sens que l'obsession faiblit, si je sens que je ne passe plus trop mon temps à chercher des symboles, des choses, de la matière que je pourrais intégrer à l'ouvrage, eh bien là, alors je lâche prise. J'ai besoin vraiment de nourrir cette obsession, de faire qu'elle reste intense. Intense, c'est-à-dire quand je parle d'obsession, ça ne veut pas dire que j'ai besoin de passer 10 heures d'affilée à écrire comme ça, complètement possédée, mais il faut que le sujet soit là et continue à travailler en tâche de fond dans mon esprit.
But it's enough if I'm working on something a little bit every day and I feel that I'm
mais
in that
vous savez, ça me suffit même de n'écrire qu'un tout petit peu chaque jour. Tant que je sens que j'arrive à vivre dans le monde, dans l'univers du roman. Et alors, parfois, il peut se produire des phénomènes un petit peu étranges. J'allais dire surnaturels, mais je vais peut-être un petit peu loin, quoique. Des phénomènes de synchronicité, des coïncidences assez troublantes. Par exemple, je vais écrire un personnage qui porte tel patronyme et, étonnamment, je vais rencontrer quelqu'un qui s'appelle pareil. Et ce sont ce genre de petits événements étranges, qui me réjouissent et qui me nourrissent mon enthousiasme pour l'écriture, en tout cas de fiction. Parce qu'il se produit, si je n'écrivais pas de roman, ces petits moments un petit peu de magie ne se produiraient pas dans la vraie vie.
Mais est-ce que vous avez déjà abandonné des romans en cours d'écriture, justement, peut-être parce que vous étiez plus assez obsédé par le sujet ?
Many times, yes.
Oui, ça m'arrive très souvent.
Yes, I have thousands of pages of novels that I've jettisoned because I just it didn't have that kind of power over me. It was getting to be work. I don't like to work. It was just becoming, well, I could finish this. I could think of an ending. But I didn't feel, there was nothing. I think that it has to do with the subconscious, which I can talk about in a minute.
Oui, ça m'est arrivé. J'ai des milliers de pages qui sont restées dans des cartons parce que je sentais que le sujet n'avait pas assez d'emprise sur moi. Ça devenait du travail pur et dur. Et j'aime pas aborder l'écriture comme ça, comme un travail prosaïque avec une fin, etc. Voilà, il y a des fois où il se passe rien. Et je pense que tout ça, c'est vraiment une histoire d'inconscient.
I think I'm often trying to figure out as I'm writing a novel, oh, what's the secret here, or what's behind this, or what's the subtext, what's the problem. I don't start out already knowing it, and I do believe.
Oui, je crois que j'essaie toujours de mettre le doigt sur le secret qui se cache derrière tel ou tel sujet, le problème qui est irrésolu. Et donc, quand je commence un nouveau roman, je ne sais pas du tout jusqu'où il va m'emmener. Je crois que tout ça, comme je le disais, se passe au niveau de l'inconscient. Je crois qu'il y a une partie de mon esprit à laquelle je n'aurais pas accès si je n'écrivais pas. Et cette partie de mon esprit, elle me souffle des choses. Et si je me retrouve dans une situation où j'ai l'impression que oui, bon, alors ce roman, il faut que je me dépêche de le finir et qu'il n'y a plus rien de stimulant, plus rien, je sais que rien d'étrange ne va en surgir, qu'il ne va pas y avoir d'épiphanie, je me dis, bon, bah, autant arrêter tout de suite.
It's a little like the difference between having a friend who you suspect has a secret, or you've heard some gossip, or there's a rumor, and you know there might be a secret, you have the kind of relationship you could just ask the friend, so is this true, or what's your secret, and they'll tell you, or having that friend and
C'est un petit peu comme si vous aviez un ami autour duquel ou de laquelle il planait un secret, il y avait des rumeurs, vous soupçonniez quelque chose, mais comme si cet ami était assez proche pour que vous puissiez tout simplement lui demander « Mais alors, c'est quoi ton secret ?» ou sinon, autre scénario, c'est si cet ami, justement, vous ne pouviez pas lui demander de vous éclairer. Donc, ça, comme si ça vous laissait avec tout un tas de questions, d'interrogations, et ça vous poussait à essayer de lui tirer les vers du nez en biaisant un petit peu, ou à faire des recherches sur Internet, etc., faire une investigation. N'allez pas croire que je passe mon temps à fouiner sur mes proches. Mais donc voilà, moi je suis plus intéressée par ce deuxième cas de figure au niveau des relations. Je préfère les amis qui gardent leurs secrets, parce que je sais que de toute façon je vais finir par les découvrir, mais par moi-même. Et alors, j'ajouterais que dans le cas de l'écriture des romans, c'est moi qui détient le secret. Mais sauf que je ne le connais pas forcément au début. Il est là en moi, mais je ne le connais pas. Et j'ai besoin que quelque chose m'empêche d'accéder tout de suite à ce secret pour me tenir en haleine.
I was just going to say that might have something to do with my writing process too, which is very associative. One idea leads to the next, and having a plan ahead or knowing what's next. Interferes with that.
Oui, je crois que mon processus d'écriture est foncièrement associatif, c'est-à-dire qu'une idée en appelle une autre, qui en appelle une autre, etc. Je n'ai pas de plan que je suivrai à la lettre, parce que si je savais ce qu'il allait se passer à la page suivante, eh bien, ça viendrait un petit peu interférer avec cette conception associative de l'écriture. Donc, en fait, je découvre ce qu'il se passe, je découvre l'intrigue, tout en écrivant. Je peux pas, si je savais dès le départ ce qu'il allait se passer, eh bien, l'écriture perdrait tout son sel, elle se résoudrait à juste une bête activité de transcription. Et je crois que cette conception de l'écriture, je la dois justement aux Français, parce que j'avais lu le manifeste du surréalisme quand j'étais à l'université, et c'est de là que je tire cet intérêt pour l'inconscient en tant que vérité de l'art, ou plutôt de la poésie dans le cas présent.
Vous avez souvent dit, Laura Kaczynski, que le Blue Velvet, le film de David Lynch, vous avait beaucoup marqué. Puisqu'on parle de secret, c'est vraiment le moment. La séquence d'ouverture du film, pour celles et ceux qui s'en rappelleraient pas, ça me semble presque une métaphore de vos livres, puisqu'on a une banlieue paisible, des gens souriants, un homme qui arrose son jardin, des très belles couleurs, et puis la caméra va descendre vers le sol, dans le sol, et on va découvrir un monde effrayant, cauchemardesque. Ça ressemble beaucoup à l'expérience de lecture des livres de Laura Kaczynski. Est-ce que vous vous en rendez compte que vous provoquez ce type d'effet sur vos lecteurs?
Well, thank you for saying that. I'm sure that I am hoping when I'm writing that that might be the effect on readers, but I don't have a lot of control over that or know how I do it. Do you wanna...
yeah. Merci beaucoup, ça me touche. J'espère, évidemment, quand j'écris, que je vais avoir cette sorte d'effet sur mes lecteurs, mais ce n'est pas quelque chose que je maîtrise beaucoup.
Before I saw Blue Velvet, I had seen... there were a lot of films that had made a big impact on me... I think my favorite, although I love Blue Velvet, I think my favorite movie remains Fellini's Satyricon, and also The Seventh Seal, but when I saw Blue Velvet,
avant Blue Velvet, il y a beaucoup de films qui m'avaient touché, mais je crois que mon préféré, toute catégorie, ça reste le Satyricon de Fellini, et puis aussi le Septième Sceau. Mais c'est vrai que quand j'ai vu Blue Velvet, ça a été une révélation, parce que je l'ai trouvé tellement américain et tellement, il me disait tout ce que j'avais soupçonné jusqu'alors. Et très bizarrement, en fait, ce film m'a paru très, très, très familier. J'ai eu l'impression de déjà le connaître. Même les passages les plus étranges, même quand ces fêtes un petit peu bizarres, même ces personnages vraiment inquiétants, j'avais l'impression de tout reconnaître. Je n'en revenais pas que quelqu'un avait réussi, ait réussi à voir ces choses que j'avais moi aussi perçues.
The town I grew up in and the sort of teenage life that I had was so much like Blue Velvet, nothing quite that dramatic ever happened to me, but the contrast between
La ville où j'ai grandi, où j'ai passé justement mon adolescence, avait vraiment beaucoup de similitudes avec Blue Velvet. Enfin, il m'est pas arrivé de choses aussi dramatiques que dans le film. Mais ce contraste entre les jolies petits pulls pastels et puis les chagrins d'amour assez banals, alors qu'à côté, dans le champ voisin, on trouvait des oreilles amputées, bien c'est... C'est un contraste que moi-même j'avais déjà perçu depuis très 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 longtemps. Cette idée de ce masque, cette comédie, comment on fait semblant que l'endroit où on vit est un endroit paisible, alors qu'en fait, quand on regarde d'un petit peu plus près, il est tout à fait autre.
And I would say even the town I live in now, which I've moved to it. Because I like it better than where I grew up. There's a similarity there too. Once you start to know more about people's lives, or when people can't hide things that are going on behind their closed doors because it makes it into the newspaper.
La ville où j'habite maintenant, où je me suis installée parce que je l'aimais un petit peu plus que la ville, que ma ville natale. J'y retrouve aussi certaines similitudes avec ce que je disais avant sur Blue Velvet. Parce que quand on y vit depuis un moment et puis qu'on commence à connaître les gens, etc., et bien justement, le masque tombe. On voit, au bout d'un moment, les gens n'arrivent plus à cacher ce qui se passe derrière la façade assez lisse de leur existence. Parce que les choses s'ébruitent. Il y a des articles de presse qui peuvent être écrits sur tel ou tel crime terrible qui s'est produit ou telle action radicale. Et donc, je voudrais aussi revenir sur la fois où j'ai regardé Blue Velvet avec mon fils, qui lui a vécu dans la petite ville dont je parlais tout à l'heure. Je crois qu'il n'y remettra jamais les pieds, d'ailleurs.
So I saw Blue Velvet when I must have been 25 or so. So I had never told my son that this film existed because I did not want him to see it until he was, I thought, old enough. But when he was 21 or so, we watched it together.
Et donc, quand j'ai regardé Blue Velvet, je crois que j'avais 25 ans. Et j'en avais jamais parlé à mon fils parce que j'avais pas vraiment envie qu'il découvre l'existence de ce film avant qu'il soit assez grand pour encaisser. Et donc, quand il a eu 21 ans, on l'a regardé ensemble et j'étais vraiment très touchée. J'ai vu qu'il ressentait exactement les mêmes choses que moi, qu'il avait les mêmes épiphanies que j'avais pu avoir. C'était d'ailleurs assez flippant. Il y a une scène dans laquelle les protagonistes sont poursuivis, enfin croient qu'ils sont poursuivis par le personnage qui est incarné par Dennis Hopper, et leur voiture un accident, et donc c'est une scène avec beaucoup beaucoup de suspense, et en fait ils sont poursuivis par des footballeurs qui sont jaloux par rapport à la petite amie du protagoniste.
But the violent potential of the football players on this young man, that's bad. But then they pull up to the house and Isabella Rossellini walks out onto the porch, it seems beaten up, completely naked and in a daze. And this stops the football players. And
Et la violence qui peut potentiellement exister justement chez ces joueurs, ces footballeurs, et qui s'apprêtent à battre sur ce jeune homme, c'est vraiment très 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 glauque. Et ensuite, donc la voiture s'arrête, et puis il y a Isabella Rossellini qui sort sur sa véranda. Elle a l'air d'avoir été battue. Elle est complètement elle a l'air choquée, elle est dévêtue, et ça arrête tout de suite les footballeurs dans leur élan. Tout le monde est vraiment surpris de la voir surgir dans cette scène de violence et cette scène qui a trait à l'adolescence. Et là, justement, un des garçons qui s'apprêtait à tabasser le protagoniste demande « Attends, là, c'est ta mère, là ?» Et à ce moment-là, mon fils s'est mis à rigoler tellement, tellement fort qu'on a dû faire pause, on a dû arrêter de regarder le film. Et cette émotion qu'il a eue, c'était parce que vraiment... Il reconnaissait dans cette scène des choses que lui avait déjà perçues. Cette existence d'une sorte de monde parallèle un peu plus horrifique dans le monde des adultes qui existait et qui projetait une ombre sur le monde de l'adolescence. Ça lui parlait beaucoup. Et je trouve que l'équilibre, justement, entre ces deux mondes qui coexistent, la juxtaposition entre ces deux mondes, je crois que c'est ça qui est vraiment, vraiment passionnant et qui nous emmène loin, justement, avec l'écriture. Et nous sommes tous, nous avons tous conscience de la juxtaposition de ces deux mondes parallèles.
Alors dans ces deux mondes parallèles, il y a... cette masterclass pour France Culture que nous faisons avec vous, Laura Kaczynski, ici au Festival América de Vincennes. Puisqu'on parle de secrets, depuis le début de notre entretien, je regarde vos colliers et je me dis qu'il y a peut-être des secrets cachés dans les colliers que vous portez.
In my necklaces? No.
Poison, maybe?
No. Maybe a little secret, but you'll have to... just follow me around and spy on me before you'll find it out.
So. Non, il n'y a rien de caché dans mes colliers. Enfin, peut-être un tout petit secret dans l'un d'eux, mais si vous voulez le découvrir, il va falloir me prendre en filature et mes pieds pour le savoir.
Je reviens au Michigan, parce qu'on revient toujours au Michigan quand on lit Laura Kaczynski. Ça, c'est vraiment une chose... absolument centrale, et plus encore la nature dans ce Midwest, la météorologie, les paysages, les éléments naturels qui ont beaucoup d'importance dans votre écriture, et l'influence que la nature a sur les êtres humains ou sur les comportements humains. Il y a cette image aussi qui revient beaucoup dans plusieurs de vos livres, c'est le sang dans la neige.
Many people have told me that, and I don't remember ever writing about blood on snow, but alors, I must write about it. I believe you. I must be. I just there has to be. I think even before that novel, people were talking
about
page,
blood
on
snow.
C'est
la première page, the first sentence of this one.
Oui, mais beaucoup de gens me font la même réflexion.
I'm sure it's true. Well,
oui, beaucoup de personnes me parlent de cette image du sang sur la neige, mais moi, je ne me souviens pas du tout avoir écrit ça dans mes romans. Mais je vous crois, hein, je ne mets pas en doute ce que vous avancez. Donc moi, j'ai passé la plupart de ma vie dans le Michigan. Et quand j'écris, j'ai vraiment besoin de... d'amener le domaine du sensoriel dans mon écriture. Et donc, je parle beaucoup, je me base beaucoup sur les saisons, enfin, surtout sur l'hiver, parce que c'est un peu la saison principale que nous avons dans le Michigan. Il y a aussi, bien sûr, la saison du sang. Non, c'est pas vrai, en fait. Hein. On n'a pas cette saison-là, là-bas.
I think, you know, I just, again, because I write associatively and because I'm piecing things together from what I see and hear and smell.
Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que j'écris de façon associative. J'aime bien assembler des pièces ensemble, tisser des choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai senties, les tisser ensemble. Et donc, les moments des changements de saison et tout ce qui se passe autour de moi, c'est une matière assez importante pour moi. Et d'ailleurs, en tant que lectrice, ce sont surtout les images qui me marquent. C'est vrai que j'aime bien qu'un roman servi par une bonne intrigue, mais ce dont je me souviens à la lecture des romans qui m'ont marqué, ce sont souvent des images.
Pour revenir sur le processus de travail, Laura Kaczynski, à quel moment est-ce que vous faites lire ce que vous êtes en train d'écrire à quelqu'un, et puis à qui?
I never show anything to anyone until I feel like it's done, or until I feel as if I've done the best I could. At that point, I have my husband read it.
And, je ne montre jamais rien de ce que j'ai écrit avant d'avoir l'impression que c'est achevé, ou au moins, tout au moins, avoir l'impression d'avoir fait du mieux que je pouvais. Et à ce moment-là, c'est à mon mari que je montre ce que j'ai écrit. Mais bon, c'est mon mari, bien sûr, donc il se sent un petit peu obligé de dire que c'est bien et de limiter ses suggestions.
Turn it to my agent often. She's edited me quite a lot, but
ensuite, like other, c'est à mon agent que je remets le manuscrit. D'ailleurs, elle m'a souvent proposé, m'a proposé beaucoup de suggestions au niveau éditorial. Et comme beaucoup de personnes qui, comme moi, ont fait des études, ont étudié l'écriture créative, qu'on fait des ateliers d'écriture à l'université, par exemple, on est habitué à avoir du retour sur ce qu'on écrit, etc. Mais ça, c'était avant. Maintenant, je me dis que si j'ai pas réussi à écrire vraiment ce que je voulais, comme je le voulais, eh bien, c'est pas la peine de le montrer à qui que ce soit. Enfin, je veux dire, je peux le montrer, mais il y a aucun conseil qui va pouvoir m'aider à vraiment parfaire les choses. Ça veut dire que, les conseils vont être un petit peu superflus. Mais quand j'ai l'impression que j'ai bien fait, j'ai pas forcément envie d'écouter beaucoup les conseils. Je rejette pas en bloc tous les conseils, mais j'ai pas envie qu'on m'en dise trop, et je crois que mon mari a vraiment bien compris ça.
Est-ce que vous avez le sentiment, Laura Kaczynski, d'avoir progressé en tant qu'auteur? Est-ce que cette idée de progrès dans le domaine artistique a un sens, ou est-ce qu'il faut tout rejouer à chaque fois?
I think it's the latter, that I start from scratch every time, and that
je dirais que c'est plutôt la deuxième solution. Moi, j'ai l'impression de devoir repartir à zéro à chaque fois que je recommence à écrire quelque chose. Évidemment, j'ai grandi, je sais plus de choses à propos du monde qui m'entoure. J'ai lu plus de choses que pour l'ouvrage précédent, donc j'espère que je m'améliore un petit peu. Mais le fait d'écrire depuis un moment ne rend pas les choses plus simples pour moi. Je pense que je peux écrire toujours aussi mal, voire même pire qu'il y a des années, que quand j'écris mon premier roman. Ce n'est pas comme un instrument que vous pourriez sur lequel vous pourriez vous entraîner quotidiennement, et puis vous finiriez par devenir vraiment un virtuose. Avec l'écriture, en tout cas pour moi, c'est plutôt comme si je m'entraînais, je jouais beaucoup d'un instrument, mais à chaque nouveau roman, c'était comme si je recommençais à apprendre avec un nouvel instrument inconnu.
I think a lot about the quote W.H. Dodd, the poet, who said that when you write a poem to the world, you're a poet, and to yourself, you're a person who wrote a poem once and may never write another poem.
Je pense souvent à cette citation de W.H. Dodd, le poète, qui a dit que quand vous écriviez un poème pour le monde, pour le partager avec le monde, là vous étiez un poète. Mais que quand vous écriviez un poème juste pour vous-même, vous étiez juste quelqu'un qui avait écrit un jour un poème. Rien de plus. Et c'est vraiment exactement cette sensation que j'ai quand j'écris. Alors, évidemment, ça apporte son lot d'angoisse, mais c'est aussi une grande source d'inspiration et ça me donne envie de continuer à essayer.
Qu'est-ce qui fait que, plutôt, qu'est-ce que la poésie vous permet que ne permet pas le roman et inversement, Laura Kaczynski?
To me, they're so different as... as genres, or that it's almost like doing completely different things. They only have in common to me that there are words on a page, and
pour moi, ce sont deux genres complètement différents. Et c'est vraiment comme pratiquer deux disciplines qui n'ont rien à voir. Le seul point commun que je vois entre poésie et fiction, c'est juste le fait qu'on couche des mots sur papier. Les poèmes, vraiment, le besoin d'écrire des poèmes, il s'impose à moi. Je ne sais pas vraiment, je ne saurais pas dire pourquoi. Je crois que c'est parce que c'est un art qui touche au sacré, c'est un art préhistorique. Et je crois que les seules fois où j'ai vraiment écrit des choses qui avaient beaucoup de sens pour moi, qui pouvaient avoir une dimension cathartique et qui m'ont aidé à découvrir des choses que j'avais vraiment besoin de savoir, eh bien, ça ne s'est produit qu'en écrivant de la poésie. Ne me demandez pas pourquoi. Mais comme je le disais, quand j'écris des poèmes, eh bien, ça me met vraiment dans un état d'angoisse assez extrême. J'essaye de pas trop me mettre la pression quand je commence à en écrire, mais il y a beaucoup plus de poèmes. J'ai écrit beaucoup plus de poèmes que j'ai jetés que de poèmes qui ont vraiment été publiés. Parce que pour écrire des poèmes, j'ai vraiment besoin d'être complètement inspirée. Il faut qu'il n'y ait personne autour de moi, qu'il y ait le silence absolu. Il faut que j'ai du temps devant moi, et malheureusement, ça n'arrive pas si souvent.
Have that kind of intensity or privacy or anything, maybe once a month or so, and it does not always result in a wonderful poem. But to work on a novel for 2 years, I could not possibly be working at that level of high inspired intensity.
Mais ce niveau d'intensité et puis de comment dire ce calme dont j'ai besoin pour écrire des poèmes, eh bien je ne peux l'avoir qu'environ une fois par mois. Et encore, ça ne donne pas toujours forcément un bon poème. Donc vous imaginez bien que quand je travaille à un roman, je ne pourrais pas soutenir et rester à ce niveau d'intensité et d'inspiration pendant 2 ans non-stop. De même, je pourrais pas passer 2 ans comme ça toute seule sans voir personne. Bon, je sais qu'il existe des écrivains ermites qui se retranchent dans des cabanes dans les bois et qui vivent comme ça et puis qui écrivent comme ça, mais moi, ce n'est pas pour moi. Donc moi, j'ai, même si je l'écriture de romans, voilà, c'est plutôt quelque chose du quotidien. Et donc, j'ai pas besoin, voilà, d'écrire pendant des heures d'affilée, parce qu'en fait, tout le gros du processus se passe plutôt dans mon esprit. Je peux continuer à travailler, à avancer sur le roman pendant que je suis en train de conduire, ou alors quand je suis à une réunion, voilà, au lieu d'écouter ce que disent les collègues. Et voilà, parce que l'écriture est vraiment fait partie intégrante de ma vie quotidienne. Et donc, évidemment, ça suscite moins d'angoisse que l'écriture poétique. Je dirais que l'écriture de romans, pour moi, en tout cas, elle me fait brûler moins de calories que l'écriture poétique. Même si, quand j'écris un roman, je suis habitée par le livre au quotidien pendant des années. Voilà, donc ça revient à dire, comme je disais tout à l'heure, que ce sont deux formes de travail complètement différentes.
Presque au terme de cette masterclass avec vous, Laura Kaczynski, deux questions encore. Vous qui êtes enseignante et qui recevez sans doute aussi beaucoup de courriers de lecteurs, quels conseils donnez-vous à celles et ceux qui veulent devenir écrivains?
I would say to any aspiring writer to write a little every day, which is, I think, if once you let it go, you may never come back.
Ce que je conseillerais à toute personne qui aspire à devenir écrivain, c'est d'écrire un tout petit peu chaque jour. Parce que si on ne le fait pas et si on lâche prise, eh bien, il est possible que jamais on arrive à revenir à l'écriture, qu'on passe à côté. Et je crois aussi que pour devenir un écrivain, il faut lire. Il faut lire au moins 2 à 3 fois plus que ce qu'on écrit, pour trouver des idées, pour affûter son style, et puis aussi pour trouver de l'inspiration en apprenant de ses pairs.
And when you are drafting something, when you first start writing anything, you must never be a perfectionist. It's just be, do not be editing yourself as you write, just write it. And if you want to
be a conseillerais aussi à ces personnes qui aspirent à devenir écrivain que il faut, quand on commence à écrire son premier jet, il faut surtout pas essayer d'être perfectionniste, pas essayer de se corriger, etc. Vous voulez un petit peu avoir un rapport un peu plus obsessionnel au texte, vous pouvez le faire, mais pas avant d'avoir produit au moins, je dirais, 200 ou 300 pages. Et comme vous le disiez, je suis enseignante, et donc je vois beaucoup de personnes qui sont des aspirants écrivains, qui ont des difficultés à écrire avec fluidité ou qui écrivaient, qui ont arrêté et qui reprennent, et je leur donne ce conseil, mais je vois qu'il est tout à fait impossible à suivre pour eux. Ils n'arrivent pas à se dire qu'ils peuvent laisser une phrase qui n'est pas tout à fait aboutie au début de leur futur roman. Et ils sont tellement sévères avec eux-mêmes que voilà, ils se coupent un petit peu dans leur élan. Ils essayent tellement dur, ils mettent tellement d'efforts à essayer de trouver le mot juste, la phrase juste, que mais, voilà, c'est très douloureux pour eux de vouloir être perfectionniste à ce point. Et en plus, personne n'a envie de lire la première page parfaite, absolument magnifique de tel roman. Sinon, il n'y a plus rien à faire derrière pour l'éditeur. Donc, il faut parfois s'autoriser à être un petit peu brouillon quand on écrit.
And this is the only thing that works for me, and I have actually seen this advice when I've given it to a few people really change their writing lives, in that when I write, and I suggest when others do as well.
Un conseil que je donne souvent, qui a marché pour moi et qui je trouve porte ses fruits auprès des gens à qui je le donne, et qui a pu même aller jusqu'à révolutionner leur façon d'écrire, leur vie d'écrivain en devenir, c'est de quand vous vous mettez à écrire, de ne jamais penser au lecteur, de vous dire que vous l'écrivez seulement pour vous, faire comme si vous n'alliez jamais le montrer. Et effectivement, ça vous fait un petit peu, ça baisse un petit peu vos standards, ça place la barre un peu moins haut. Donc voilà, il faut cesser de s'auto-censurer. Parce que sinon, cette activité qui doit être créative et passionnée, ça devient une corvée, ça devient un travail que vous effectuez en vous demandant, en marchant sur des œufs, en vous demandant toujours si vous avez bien fait ou pas. Alors qu'il faut que ça reste un vrai exutoire, que ce soit un processus, un moment de joie. Et par exemple, si vous voulez écrire quelque chose à propos de votre famille, quelque chose d'un peu honteux ou un petit peu qui va un petit peu loin, un peu fou, vous pouvez l'écrire. Vous n'avez pas forcément besoin de le faire publier après. Mais je crois que pour être vraiment un écrivain, il faut être capable de l'écrire. Voilà. Et puis surtout de l'écrire sans penser au moment où vous faites votre premier jet à ce que vont penser les gens qui vous liront. Ça, il faut s'en préoccuper que après.
And your subconscious is not going to reveal its secrets to you if you are thinking about what would happen if your sister-in-law found out what your subconscious secret was that you are trying to contact. So that's the entirety of my advice, really.
Oui, votre inconscient ne sera pas vraiment enclin à vous révéler les secrets que vous cherchez à percer si au moment où vous écrivez, vous êtes en train de vous demander ce que votre belle-sœur va pouvoir en penser. Donc c'est, oui, voilà, c'est ça un peu le conseil principal que je donnerais aux aspirants écrivains.
Dernière question de cette masterclass, elle revient souvent dans nos entretiens. Est-ce que la question de la postérité se pose pour vous, Laura Kaziski?
No, I don't know. I think that again would be so that would, I mean, it's anxiety producing enough just to write something every day. I have to say, I never think about that. I mean, it's a nice thought that the work would last, but I don't necessarily believe that it will, and I won't be here anyway, so I won't know. I'm not writing to make myself immortal or really at all. It would be nice after I died if once in a while my son could still get a royalty check or something, but that's as far as I've gotten post-mortem.
Non, je n'y pense vraiment jamais. Je crois que j'ai déjà assez de mal à gérer toute cette angoisse qui est générée par l'écriture au quotidien pour me préoccuper justement de la postérité de mon œuvre. C'est sûr que oui, c'est pas désagréable d'imaginer que mon œuvre puisse perdurer, mais bon, je sais pas, quelque chose d'ailleurs dont je suis vraiment persuadée. Et puis de toute façon, je ne serais pas là pour le constater si c'est le cas. Je ne cherche pas à atteindre l'immortalité en écrivant. C'est vrai que ce serait pas mal si mon fils pouvait par contre toucher quelques petits chèques en tant qu'ayant droit une fois que je serai plus là, mais je crois que ma réflexion sur ce qui va se passer dans le post-mortem ne va pas plus loin que ça.
Grand merci à Morgane Cesana qui a magnifiquement assuré la traduction de notre entretien et bien sûr merci à Laura Kaziski.
Thank you very much.
C'était la masterclass de Laura Kaziski avec Arnaud Laporte. Attaché de production Nathalie Lempereur, coordination Arnaud Laporte, réalisation Clotilde Pivin.